La croissance verticale de l'espérance de vie peuple notre beau pays de ceux que l'on appelle avec une pudeur sotte les seniors. Je me compte parmi ces vieillards. Beaucoup idéalisent leur jeunesse. D'autre part, enfants ou séniles, femmes ou mâles, riches ou pauvres, droite ou gauche, croyants ou athées, depuis nos ancêtres les Gaulois, le français râle, critique, s'indigne, tempête, rouspète, crie au scandale et se met en colère, au moins 3 fois la semaine. Ce dernier mot orne la une de nos journaux. Vieillard plus râleur, deux populations non exclusives, cette somme où ce mélange fait de notre France un pullulement dense de grands-papas ronchons. Riches et bavards, devenus majoritaires, électeurs de plus en plus décisifs, cherchant d'autre part à exhiber la réussite de leur existence, ces colériques disent à petite poussette, chômeuse ou stagiaire qui paiera longtemps pour ses retraités, c'était mieux avant. Michel Serres est ce soir notre invité pour son dernier ouvrage, c'était mieux avant, et comme chaque soir, eh bien, nous allons commencer en musique et nous avons choisi pour vous, Michel, Camille, je ne mâche pas mes mots parce que vous aussi, vous ne les mâchez pas. On écoute Camille.
Merci.
Je ne mâche pas mes mots. Je ne mâche pas mes mots. S'il m'arrive d'être foudroyé par l'éclair au chocolat, très souvent je me raisonne avant de replonger mon doigt dans la marmelade pomme préparée à cappella. Sur le piano, si la seule vue du miel suffit à clarifier ma voix, l'aspartame à sa mère n'édulcorera pas la colère de voir sous la princesse un petit poids.
Vocalise, je vois.
Oui, Camille vocalise avec les mots. Et vous, Michel Serres, les mots, vous les connaissez depuis la toute petite enfance. Et vous racontez dans ce livre à quel point il y avait des mots quand vous étiez petit et que du côté de la rive gauche de la Garonne, vous draguiez les cailloux avec votre père, car votre père était dragueur.
Oui. Le dragueur dans le sens ancien du terme.
Oui, oui, il draguait vraiment avec une grue.
Avec, ouais, c'est ça, des cailloux au front de la Garonne, oui.
Alors ça, c'était la rive gauche, c'était le côté du père. Côté mais du côté père. Rive droite, mm-hmm. Il y avait les lavandières. Et vous c'est ne ça. Compreniez pas tous
ah,
les
oui,
mots.
Oui, parce que au moment de l'embauche le matin, on prenait un petit bateau pour aller au centre du fleuve et on passait devant l'endroit où les lavandières tapaient sur le linge à coups de battoir. Et là, évidemment, il y avait une sorte de contact un peu éloigné entre les lavandières et les dragueurs, puisque nous les appelons comme ça. Et bien entendu, ils échangeaient des mots qui n'étaient pas du tout sucrés, qui étaient plutôt salés. Et comme j'avais 9 à 10 ans, je avais du mal à le comprendre, puisque mon instituteur ni ma grand-mère ne les utilisaient. Voyez. Et c'est peut-être là mon premier enseignement d'ethnologie, un truc comme ça, voilà. Mais c'était très intéressant.
C'est peut-être pour cela que vous êtes devenu académicien.
Peut-être en effet. Je le souhaite d'ailleurs. Pourquoi pas.
En tout cas, les mots des lavandières ont disparu de notre horizon, à la fois sémantique, politique. Oui. Les lavandières ont aussi disparu, elles.
Oui, alors les lavandières ont disparu, les outils ont disparu, les mots ont disparu. Et puisque vous faites allusion à l'académie, ça tombe assez bien, puisque nous faisons le dictionnaire, vous le savez. Bon.
Et nous avons tous les jeudis après-midi.
C'est ça. Et nous avons à notre disposition tous les dictionnaires qui ont paru dans cette maison depuis Richelieu. Et nous avons calculé, avec des ordinateurs assez puissants, la différence qu'il y a entre deux dictionnaires successifs au point de vue du vocabulaire. Et on s'est aperçu que, de façon relativement constante, entre deux dictionnaires successifs, la différence est entre 2 et 4 000 mots. Vous voyez, autour de 3 000, 4 000 mots. Voilà. Tandis que, entre le dernier dictionnaire et celui que nous préparons, la différence est de 37 000 mots. Et vous avez là une photographie du caractère absolument exceptionnel du moment où nous vivons. Puisqu'il y a une dérive de la langue telle qu'on peut imaginer... Alors, j'ai regardé moi-même quels sont ces mots qui ont tant varié. Et alors là, nous retrouvons les lavandières et nous retrouvons les dragueurs, n'est-ce pas ? Ce sont des mots de métier. Et n'est-ce pas, les outils qu'utilisait la lavandière, l'endroit où ils étaient à genoux, la façon dont on présentait le linge dans des baquets, etc. Et le dragueur, lui, qui était dans un bateau qui n'existe plus, bien entendu, avec une technique qui paraît maintenant complètement désuète, etc., utilisait des mots. Eh bien, qui ont disparu, bien entendu. Et regardez par exemple les mots de l'agriculture. Les mots de l'agriculture, qui sait aujourd'hui ce que c'est qu'un joug, qu'est-ce que c'est qu'une émouchette, etc. Vous pensez bien que personne ne le sait.
Une estaminette.
Voilà. Alors, il y a, si vous voulez, une dérive du vocabulaire très intéressante, très passionnante, et où on voit très bien que c'est les métiers qui ont disparu, les outils qui ont disparu. Alors, dans mon livre « C'était mieux avant », je compare effectivement les outils d'autrefois et les outils d'aujourd'hui. Vous savez, dans le métier dont vous parlez tout à l'heure, on se servait de pelle pour lancer le sable ou les cailloux dans la benne du camion. Et tout d'un coup, il y a eu un tractopelle dont on a mis la pelle. La pénibilité du travail a disparu. Par conséquent, tout mon livre est d'une certaine manière en développement sur cette idée que c'était bien pire avant. Vous voyez, et que quand les grands paparonchons, dont je m'amuse si vous voulez, disent c'était mieux avant, c'est qu'ils ont perdu la mémoire, tout simplement. Vous savez, avant j'y étais.
Avant
ça
vous
tombe
y
bien,
étiez.
Ça tombe bien, je peux en témoigner. Avant, par
et vous,
exemple,
vous êtes tous au fronchon.
Oui,
bon grand-père quand même, mais paronchon.
Paronchon, oui, mais grand-papa sûrement, même arrière-grand-papa, vous savez. Bon, mais. Mais si vous voulez, quand je pense à mon avant, à moi, où j'étais là, je peux vous avouer, Laure, qu'on était gouverné rien que par des braves gens. Ils s'appelaient Franco, Mussolini, Hitler, Staline, Mao Tse-tung, Pol Pot, etc. Rien que des braves gens, qui ont simplement fait quelques dizaines de millions de morts, vous voyez. Par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, il n'y a pas photo. Vous voyez ce que je veux dire? Et même, je parle là du camp adverse, d'une certaine manière. Mais si je parlais de mon camp à moi, et des gens qui passent pour des héros, n'oubliez quand même pas que Winston Churchill, par exemple, a diligenté sur Dresde, qui était une ville qui n'avait aucune industrie, aucun appareil militaire, un bombardement qui a fait 200 000 morts. Vous voyez? Et le président des États-Unis a balancé sur Hiroshima et Nagasaki la bombe A, qui a encore des victimes aujourd'hui. Vous voyez? Donc, c'était pas vraiment mieux avant. Voilà. Au moins, voilà un exemple que je peux amener dans cette discussion.
Ben, ce qui était mieux avant, c'était quand, avec votre frère, au lieu de jouer aux petites voitures, vous avez un jour volé une grue.
Ah oui, mais volée non, puisque mon père l'avait achetée, vous voyez.
Enfin, elle a disparu, il ne savait pas où elle était passée, la grue.
Non, c'était une grue que sur le chantier nous avons mis au rancard parce qu'elle était trop vieille, et nous avons acheté sur le port de Bordeaux une grue qui était également mise à l'écart par le port de Bordeaux, mais qui pour nous était quasi jeune, vous voyez, et on a dû la transporter sur 200 kilomètres. Et alors là, je mets en relief, où je décris le fait qu'il n'y avait pas vraiment d'instrument de levage, le fait qu'il n'y avait pas de précaution. Alors je m'arrête là-dessus. C'est-à-dire que
Ce qu'on appelle le principe de précaution.
Voilà. Le principe de précaution n'existait pas. Et je raconterai mille histoires là-dessus, pas seulement celle de la grue dont vous parlez, mais je me souviens très bien d'une introduction d'un roman de Jules Verne. Vous savez que quand on lance la pioche, enfin l'ancre, pour arrêter le bateau, il y a une sorte de moulin qui permet de le remonter. Il s'appelait le cabestan. Eh bien, quand on vire au cabestan et que l'ancre se tend parce qu'elle ne veut pas me sortir, le cabestan part dans l'autre sens et tue les gens, tue les matelots. Et bon, voilà, eh bien, il raconte...
Je n'oublie pas que vous avez été officier de marine.
Oui, oui, c'est pour ça que je sais ce que c'est qu'un cabestan, si vous voulez. Bon. Et du coup, Jules Verne raconte que cet accident a coûté la vie à 4 ou 5 matelots, point, à la ligne, on les remplaça et le bateau put partir une heure après. Donc, pas de commentaire. Vous voyez, aujourd'hui, un accident de chantier qui mettrait à mort 5 à 6 ouvriers ferait la une des journaux. Vous voyez donc, du côté du respect de la vie humaine, aussi bien du côté des guerres que du côté des métiers ou des entreprises, c'était vraiment pas mieux avant. Voilà. C'est la thèse de mon livre que je développe un peu en donnant des exemples, tantôt graves, tantôt souriants.
Vous êtes né à Agen en 1930, Michel Serres. Vous êtes devenu un des plus grands philosophes reconnus sur le plan international. Vous vous destiniez à être scientifique. D'ailleurs, vous n'avez jamais quitté l'épistémologie ni la philosophie des sciences. Votre premier ouvrage que vous avez fait reconnaître était consacré à Leibniz. Depuis, il y en a eu 160 ou 175, je ne sais. Mais vous avez gardé la passion des mots, la force de conviction, la croyance en l'éthique et aussi la croyance en l'amour de votre terre. Nous allons vous faire écouter 40 secondes d'un événement incontestable sur le plan international qui s'est passé en 2007. Écoutez.
Oui, c'est le chant des Néo-Zélandais, je reconnais.
Alors, vous avez tout de suite reconnu le haka du quart de finale de 2007 des All Blacks.
Que nous avons perdu.
Oui.
Et j'étais là parce que...
Ah, comme par hasard.
Non, j'étais pas là, mais je veux dire par là...
Devant la télévision, comme tout le monde.
Non, oui, mais comme tout le monde, pas tout à fait, parce que vous savez que j'enseignais à cette époque-là à Stanford, en Californie, et le décalage horaire était tel qu'il a fallu que je me lève à 2h du matin pour voir ce match. Et je l'ai vu entre 2h et 3h30, vous voyez. Et c'est pas tout à fait comme tout le monde, vous voyez, parce qu'il a fallu réveiller toute la maisonnée. D'ailleurs, les gens, très gentiment, ont suivi avec moi cet événement.
L'importance du corps est prépondérante à l'intérieur de votre œuvre. Que vous parliez de Zola, que vous parliez de Leibniz, que vous parliez de Lucrèce. Je rappelle que vous avez publié 2 livres sur Lucrèce. Que vous parliez de la série des Hermès. Comprend-on ce que veut dire penser à partir de nos sensations, à partir de nos perceptions, à partir de notre corps?
Lorsque j'ai écrit un livre qui s'appelle « Variations sur le corps », je l'ai dédicacé à mes professeurs de gymnastique, à mes entraîneurs et à mes guides de haute montagne, et j'ai mis en dessous « qui m'ont appris à penser ». Et donc la réponse est toute faite là, c'est-à-dire qu'en effet, le corps commence. Et d'ailleurs, tout écrivain sait parfaitement qu'il écrit avec les pieds. Je veux dire par là qu'il faut d'abord marcher, ou sauter, ou danser, si vous voulez, pour avoir en soi un rythme qui correspond au rythme du corps. Vous savez qu'on a des rythmes partout, le rythme du cœur, le rythme du pouls, le rythme du sommeil, le rythme de nos compagnes, qui est le rythme des règles, etc. Et le corps est rythmé, et par conséquent, si vous marchez, vous rentrez dans le rythme, et le rythme rentre dans le langage. Voilà. Et d'une certaine manière, oui, c'est le corps qui commande. Mais pour revenir, justement, au corps considéré à partir de cet ému avant, alors là, c'est gigantesque. C'est-à-dire, aussi bien l'hygiène, aussi bien la sécurité, aussi bien l'environnement, etc., tout a changé. Et regardez, par exemple, n'oubliez jamais que lorsque je suis né, l'espérance de vie était de 45 ans. Vous voyez, aujourd'hui, elle est de 80 ans. Ce qui change absolument la vie humaine. La naissance est choisie par les parents, la mort est repoussée, la douleur est un peu allégée par les antalgiques, etc. Nous avons un nouveau corps. Et ce corps nouveau, si vous voulez, rentre dans cette nouveauté exceptionnelle que je décris pour les temps actuels. Voyez. Et pour parler, si vous voulez, de l'hygiène, par exemple, n'oubliez jamais, puisque vous parliez des lavandières tout à l'heure avec beaucoup de plaisir, que les lavandières tapaient sur le linge, mais qu'on changeait de linge combien de fois? Vous voyez, il y avait on faisait la lessive, mais on la faisait tous les 3 mois, tous les 6 mois, etc. Et une lectrice m'a écrit en me disant, vous vous trompez parce que on changeait quand même beaucoup plus souvent de chemise que vous croyez parce qu'on avait un gros trousseau. Et je lui réponds, si elle m'écoute, je lui réponds, chère madame, ça dépend en effet du trousseau. Et il y avait des gens qui ont des trousseaux très très importants, cousus aux initiales de la variée. Mais il y avait des gens qui avaient très peu de trousseaux et qui ne pouvaient pas changer de cette façon-là. Mais je peux aussi raconter mes souvenirs de pensionnaires. Nous étions dans des dortoirs de 80 personnes, et dans ce dortoir, de temps en temps, 2 fois par semaine, je crois, quelqu'un arrivait à 5 heures du matin, tapait dans ses mains et disait « Les douches, les douches !» Bon, et il fallait se déshabiller, il fallait sortir du lit, aller vers la douche. La douche était dans la troisième cour. Le dortoir était dans la première cour. Il fallait traverser 2 cours pour arriver à la douche. Imaginez combien de héros, en janvier, février, mars ou décembre, traversaient à 5 heures du matin les 3 cours pour aller se laver. Nous ne nous lavions presque plus. Vous voyez, et par conséquent aujourd'hui, où tout le monde, d'une certaine manière, moi le premier, avons coutume de la douche du matin, de la douche journalière, la différence est géante, vous voyez, entre l'hygiène telle que nous la connaissions dans ces années-là et celle que nous pratiquons aujourd'hui même. Alors là, le corps a changé, vous voyez, non seulement. Et alors, mieux encore, quand je suis né, je crois qu'il y avait moins de 2 milliards d'habitants sur la Terre. Et aujourd'hui, il y en a 7 milliards et demi. Est-ce que vous connaissez une vie humaine au cours de laquelle l'humanité s'est multipliée 2 fois par 2, 2 fois de 4 fois de 8, vous voyez. Et je ne suis d'ailleurs exceptionnel qu'en cela. C'est-à-dire de dire que pendant la période où j'ai vécu, l'humanité a changé de façon drastique. Et par conséquent, nouvelle naissance, nouvelle mort, nouveau corps et nouvelle humanité. Et vous voyez à quel point les choses ont changé, mais n'ont pas changé en plus mal. Vous voyez, évidemment, les problèmes démographiques posent des questions très très importantes de d'immigration, etc. Mais si vous voulez, en gros, je ne serais pas vivant aujourd'hui si nous étions 20 ans ou 30 ans avant. Vous voyez, je ne serais pas là pour vous sourire et répondre à vos questions.
Vous avez été l'un des rares philosophes français à introduire la philosophie des sciences à l'intérieur de la réflexion plus générale philosophique. En cela, vous avez été un élève de Gaston Bachelard, d'ailleurs vous le citez souvent, que ce soit d'ailleurs pour parler de philosophie ou pour parler de littérature, par exemple dans le très beau livre que vous avez consacré à Émile Zola. Je vous propose d'écouter Gaston Bachelard. Il va parler de son enfance et du poids des mots. Archivina, 5 décembre 1949.
Dans la plupart des souvenirs d'enfance, on est trop historien. Les souvenirs d'enfance sont des souvenirs racontés. Quelquefois, ce sont les parents qui vous les ont appris. Et alors, de temps en temps, on est surpris par un mot. J'ai noté ce souvenir d'enfance d'un poète. Il se souvient de l'odeur de son capuchon mouillé. On m'a rendu avec un mot, n'est-ce pas? Avec un mot, je crois avoir dit l'odeur est dans le mot. Comprenez-vous? Et alors, de temps en temps, il y a des mots absolument morts qui surnagent.
C'est une espèce de réviviscence sensorielle grâce au...
Ah, pas sensorielle, je sais pas.
Non.
Pas, je ne sais pas pourquoi voulez-vous que ce soit sensoriel. Hein?
Parce que hein? Ça peut être suscité non seulement par le mot, mais par la sensation aussi.
Peut-être, oui, mais je l'avais perdu. C'est le mot qui me l'a donné. Oui.
Alors d'abord, c'est toujours délicieux d'entendre la voix de Gaston Bachelard.
Oui, c'est du Proust, tout simplement. C'est le souvenir induit par le goût de la madeleine.
Oui, ouais, sauf que c'est le capuchon mouillé. D'ailleurs, oui, dans le dictionnaire, cher académicien,
oui.
Est-ce qu'on maintient le mot capuchon, puisque
on l'utilise de moins en moins, le mot capuchon. Oui, vous avez raison. Mais le problème est un peu plus délicat, un peu plus compliqué. C'est-à-dire, il y a des mots, en effet, qui ne sont plus usités, ça c'est certain. Faut-il les débarquer? Le problème est plus compliqué que ça n'a l'air, parce que il y a des mots qui sont utilisés par Zola, par Balzac, par Descartes, etc., qui ont disparu, mais qui sont encore dans le corpus de la littérature française. Par conséquent, il faut les conserver au moins pour que, quand vous lisez Zola, Balzac ou Descartes, vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Vous voyez ? Et donc, il y a une balance vraiment très très délicate à observer entre les mots à ne pas garder et les mots à garder parce qu'ils font partie du corpus en question. Voilà.
Alors vous, Michel Serres, vous étiez un étudiant modèle, un étudiant brillant, vous avez passé les concours, vous êtes monté, entre guillemets, à Paris, vous êtes entré à Normale Sup, et pourquoi, vous qui vous destiniez à une carrière scientifique, pourquoi avez-vous décidé de vous orienter vers la philosophie après?
Oui, c'est une question là de presque d'autobiographie délicate. Voilà pourquoi, très exactement. Je suis de la génération de la guerre. Bon, donc j'ai vécu, évidemment je n'ai pas fait la guerre puisque j'avais entre 10 et 15 ans, disons, pendant la guerre. Mais ce qui arrive au moment de l'adolescence est décisif pour une vie. Et donc, pour moi, l'événement majeur de cette affaire-là, je l'ai cité tout à l'heure, c'est Little Boy, c'est-à-dire la bomba de Nagasaki et d'Hiroshima. Bon, alors, vous êtes scientifique à cette époque-là. Je suis scientifique d'un 20 ans, 25 ans, 22 ans, bon, très bien. Et à ce moment-là, la plupart de mes professeurs, beaucoup de mes professeurs physiciens, avaient abandonné la physique pour la biologie, par justement souci de conscience. Ils ne voulaient pas collaborer à une science qui avait participé à ça. Et donc, si vous voulez, je fais partie de la fin de cette génération pour qui les problèmes scientifiques ont posé une question éthique. Et vous savez qu'aujourd'hui, on parle de déontologie ou d'éthique des sciences, et que l'éthique, finalement, du savoir scientifique a commencé là. Et a été absolument commencé. Parce qu'avant, on croyait que la science est tout bonne et seule bonne, et les lumières, si vous voulez. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une crise. Et c'est pour ça que je suis devenu philosophe. Voilà.
Mais vous n'avez pas pour autant abandonné la scientificité peut trouver à l'intérieur de la réflexion philosophique.
Oui, non, bien sûr.
Et la méthode qu'il faut pour savoir philosopher.
Bien entendu, il n'y a pas un seul philosophe, à mon avis, dans l'histoire, qui n'ait été à un certain moment tout à fait spécialiste de questions. La géométrie chez Platon, la géométrie algébrique chez Descartes, le calcul infinitésimal chez Leibniz, je pourrais citer toute une liste. Et par conséquent, on n'est pas tout à fait philosophe si on ne sait pas de science.
Mais vous avez peut-être introduit, avec certains de vos pairs, P-A-I-R-S, une sorte de nouvelle manière de philosopher, c'est-à-dire d'introduire une méthodologie tellement rigoureuse que la philosophie a commencé à naître autrement. Et là, je veux parler de Michel Foucault, avec qui vous avez parlé très longuement en amont de la rédaction de ce livre qui reste quand même un des livres les plus importants du XXe siècle. Je veux parler des mots et des choses. Et je vous propose d'écouter Michel Foucault qui va parler des mots et des choses et de l'apparition de l'homme. Archive INA, 1er janvier 1973.
Il me semble que l'homme est apparu d'une façon très curieuse, au confluent d'un certain nombre d'événements qui semblaient n'avoir pas de rapport les uns avec les autres. L'homme, il est né à l'époque de Kant, il est né à l'époque de Sade, il est né à l'époque de Cuvier, de Ricardo, de Bob, etc. Quel est le trait commun à tous ces événements? Eh bien, il me semble que l'apparition d'une science du langage, d'une philologie, avec Bob et avec Schlegel, l'apparition d'une économie politique, c'est-à-dire d'une science du travail et de la production, avec Adam Smith et avec Ricardo, l'apparition d'une biologie, avec Lamarck et surtout avec Cuvier, la naissance par conséquent d'une science de l'organisme. Tout ceci a permis de définir pour la première fois un être concret, un être réellement existant, un être perceptible et accessible au savoir. Cet être serait un sujet parlant, serait un sujet travaillant et serait un sujet vivant. Or, quel est le seul être au monde qui soit à la fois parlant, travaillant et vivant, sinon l'homme? De telle sorte que c'est au confluent de l'apparition de ces trois formes de savoir, au point exact de leur rencontre, que s'est dessinée cette figure nouvelle et cette figure absolument moderne que l'on appelle l'homme. De telle sorte que l'homme, loin d'être en quelque sorte le sujet absolu et souverain de tous les savoirs, l'homme, au lieu d'être en retrait derrière toutes les connaissances, au lieu de les détenir dans la mesure où elles naîtraient toutes de lui, l'homme, en fait, est placé au milieu des connaissances. Et c'est dans l'interstice de connaissances se développant en quelque sorte d'elle-même que l'homme a pu se dessiner et apparaître. L'homme est né au milieu du savoir, et non pas le savoir au milieu de l'homme.
Nous venons d'entendre la voix de Michel Foucault.
Oui, c'est très intéressant, cette voix, même émouvant. Seulement, cependant, si vous voulez, ce texte est très daté. C'est-à-dire, depuis lors, l'apparition de l'homme est tout à fait documentée aujourd'hui. C'est-à-dire, on sait parfaitement qu'il est... Vous savez, avant les sciences dont Foucault parle, il y a eu désormais la paléoanthropologie, etc. Et on a découvert des fossiles, etc. On sait très bien les dater, et on les a trouvés le plus souvent en Afrique. Et disons qu'il y a une science à la Yves Coppens, ce qui est en intervenu. Et ce que dit Foucault, c'est une définition assez abstraite de l'homme. Et aujourd'hui, on a quand même les sciences ont mis à jour une apparition de l'homme beaucoup plus concrète, beaucoup plus vivante, etc. C'est pas le savoir qui a... Si, c'est le savoir, il a raison. Mais c'est un autre savoir que celui que Foucault cite. C'est ça qui est finalement la datation du texte de Foucault que vous venez d'entendre. Il est vraiment daté de il y a 20-30 ans, si vous voulez. Aujourd'hui, on ne dirait plus jamais ça.
Alors, vous voulez dire, Michel Serre, que avec la sédimentation de tous nos savoirs et avec la nouvelle connaissance de tout ce qui arrive aujourd'hui dans le champ des différentes disciplines, que ça soit l'anthropologie, l'ethnologie et d'autres disciplines, la définition même de la philosophie change.
Écoutez,
penser, ça ne veut pas dire la même chose il y a 20 ans ou il y a 30 ans.
Voilà. Dans mon livre « C'était mieux avant », je décris avec précision l'extraordinaire originalité du temps où nous vivons. C'est-à-dire, je l'ai dit tout à l'heure, un nouvel homme, etc. Bon, comment voulez-vous que, lorsqu'on vit une nouveauté pareille, qui n'était pas mieux avant, justement, comment voulez-vous qu'on puisse continuer à avoir les mêmes institutions, les mêmes lois, les mêmes manières de réfléchir, la même philosophie, qui, au fond, toutes ont été créées à une époque où le monde n'était pas ce qu'il est devenu. Par conséquent, aujourd'hui que nous vivons cette nouveauté extraordinaire que je décris dans, non seulement C'était mieux avant, mais aussi dans Petite Poussette, mais aussi dans quelques livres avant, je pense que nous avons plutôt à inventer qu'à nous souvenir. Vous voyez, les textes que vous m'avez fait entendre sont des souvenirs. Mais aujourd'hui, les sciences sont nouvelles et l'époque où nous vivons sont nouvelles. Et donc, le souci principal du philosophe, c'est d'inventer. Ce n'est pas de faire de l'histoire. Aussi, on peut faire de l'histoire parce que l'histoire permet d'être lucide sur les temps anciens et les temps présents. Mais d'ailleurs, mon livre C'était mieux avant est d'une certaine manière un livre d'histoire, bien entendu. Mais toute la question est de savoir quel type de pensée, quel type d'institution, quel type de politique, quel type de droit, etc. faut-il inventer pour s'adapter à cette extraordinaire nouveauté que nous vivons. Voilà.
Alors, c'est ça, comment faire la vraie ça, c'est question. Les questions que vous posez à l'intérieur de cet ouvrage,
exact.
Mais aussi depuis très longtemps. Comment faire aujourd'hui, premièrement, pour ne pas être écrasé par la multiplicité des savoirs et par tous les écrans qui nous déversent à chaque seconde 1 milliard d'informations?
Cette question est importante, mais elle s'est déjà posée, figurez-vous, Laure. C'est-à-dire, on a un texte. Leibniz était bibliothécaire. Vous vous rappelez, au début de sa vie, il était bibliothèque du duc de Hanovre. Et juste avant lui, c'est-à-dire un siècle ou un siècle et demi avant lui, on avait inventé l'imprimerie. Bon, et tout d'un coup, on a pu avoir des bibliothèques. Et il disait, c'est horrible, alors je cite de mémoire, mais je suis sûr que c'est bon. Cette horrible masse de livres, nous ne savons pas vraiment si elle va ramener le savoir ou la barbarie. Parce que je ne les dominerai jamais. Et de fait, il avait raison. Il n'avait pas lu toute la bibliothèque, moi je n'ai pas lu toute la bibliothèque nationale, ni vous non plus, n'est-ce pas? Donc, la masse d'informations est un problème rémanent dans l'histoire de la pensée. C'est vrai que nous avons été toujours dépassés par nos informations. Mais justement, nous avons aujourd'hui des nouvelles manières de la traiter, de traiter les big data, comme on dit. Et cette nouvelle manière de traiter les big data se dirige d'une certaine manière vers un nouveau savoir, vous voyez? Alors évidemment, avec les pépins...
Mais qui peut être détenteur de ces nouveaux savoirs? Seule une élite
qui est
technologiquement avancée et qui est capable de domestiquer ces instruments?
Et vous avez raison, de nouveau, mais de nouveau, cette question s'est posée, c'est-à-dire qui pouvait avoir ou maintenir ou détenir tous les savoirs auparavant. Eh bien, il y a des noms, c'est Maxwell, c'est Darwin, c'est des gens comme ça. Et aujourd'hui, vous savez, c'est le contraire. Savez-vous, par exemple, qu'il y a plus de savants vivants que de morts dans toute l'histoire? Vous voyez? C'est-à-dire, le nombre a été tellement verticalement croissant qu'aujourd'hui, il y a plus de savants vivants que de morts. Vous voyez, et donc, ce que vous appelez l'élite est en train de se multiplier. Et d'autre part, il est vrai que malgré tout le pépin que vous savez, il est clair que vous, moi, n'importe qui, nous avons accès direct à l'information. Et je le dis dans C'était mieux avant. J'habitais à Agen, comme vous le savez. Eh bien, pour avoir une information, il fallait que je passe la nuit dans le train, puis que je m'inscrive au national, que j'attende, etc. Ça demandait 4 ou 5 jours et beaucoup d'argent. Aujourd'hui, je suis à Agen, je clique sur Wikipédia et j'ai l'information. Donc, l'accès à l'information est devenu quand même si rapide qu'aujourd'hui...
Elle n'est pas forcément... scientifiquement établi.
C'est vrai. Mais c'est vrai même.
On peut faire véhiculer des informations qui sont fausses et qui vont devenir des... D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez inscrit à l'Académie française le débat sur la post-vérité dans votre dictionnaire, mais on est comme dans une ère où la vérité disparaît au profit de la circulation d'informations.
Alors voilà. C'est justement là que sont responsables les philosophes qui m'ont précédé. Tous les philosophes qui m'ont précédé n'ont fait que s'attaquer à la notion de vérité. Et comme ils n'avaient pas fait de science, aucun d'entre eux, ça leur était facile de relativiser à mort la fonction de vérité. Et donc toute la philosophie s'est orientée vers la fin de la vérité, et ce que vous appelez aujourd'hui cette post-vérité, c'est un peu eux qui s'en sont responsables. Voyez.
Mais ça existe, la vérité.
Y compris chez... Comment ?
La vérité, ça existe.
Ah mais j'en suis le porteur absolument. C'est-à-dire, il y a des vérités mathématiques, il y a des vérités physiques, il y a des vérités scientifiques, etc. Bien sûr. Mais eux l'ont oublié. Et M. Freud, du coup, l'a oublié. Et M. Poutine l'a oublié aussi. Et aujourd'hui, au fond, dans les médias, on ne demande pas si l'aspirine est efficace. Non, non, on demande combien de gens pensent que l'aspirine est efficace. Ça change tout, ma chère. C'est-à-dire, la vérité, c'est oui ou non, est-elle efficace? Ou statistiquement, est-elle efficace? Mais la question n'est pas, évidemment, combien de gens. La vérité n'a rien à voir avec le nombre des gens qu'elle persuade. Voilà. Et là aussi, nous avons fait des progrès. C'était pas mieux avant. Voilà.
Eh bien, écoutez, il y a des moments où c'était mieux avant. C'est celui que je vais proposer aux auditeurs, grâce à vous, Michel Serres. Il est 20h41. Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Michel Serres. C'est un extrait de Rinaldo de Handel, sous la direction de Christopher Hogwood, avec comme interprète de Rinaldo, David Daniels. C'était mieux avant.
J'ai choisi en effet ce texte pour sa simplicité. C'est-à-dire, je crois qu'on atteint le maximum de la beauté, ici Handel, ici avec des notes, avec très peu de notes, très peu d'inspiration, et une phrase absolument limpide et transparente telle qu'elle est éblouissante. Voilà. Et elle atteint donc, pour nous, absolument toutes les fonctions. On admire intellectuellement, on est touché sensiblement, tout le corps y participe, etc. On a envie de bouger, on a envie un peu de danser, de se déplacer. Par conséquent, je ne connais pas, si vous voulez, de choses auxquelles on peut faire attention avec la totalité des facultés du corps. Voilà. Et je crois que ce texte-là est parfait pour ce type d'écoute.
Merci pour ce moment de beauté, Michel Serres. Dans cette émission, on demande à des personnes qui connaissent l'invité de s'exprimer sur lui. Nous avons demandé à un ancien Premier ministre, qui est actuellement président du Conseil constitutionnel, qui vous a eu comme enseignant, figurez-vous.
Oui,
vous devinez de qui je parle?
Oui, je lui ai fait passer le concours de l'école normale. J'étais dans le jury quand M. Fabius et M. Juppé sont...
Vous aviez aussi Alain Juppé.
Candidat, oui, tous les deux.
Eh bien là, ce soir, c'est Laurent Fabius, écoutez-le.
Michel Serre est un homme pour lequel j'ai à la fois beaucoup d'affection et beaucoup d'admiration. Et c'est vrai que les occasions que nous avons eues de nous rencontrer sont assez singulières. La première rencontre que j'ai faite de Michel Serre, c'est parce qu'il était mon examinateur au jury de philosophie de l'École normale supérieure. Et c'est lui qui m'a fait passer l'épreuve de philo. Et il n'avait pas été cruel, donc je lui en suis reconnaissant. Ensuite, quelques années se sont passées et on s'est retrouvé dans une aventure assez extraordinaire autour de Robert Badinter pour préparer un livre qui s'appelait « Liberté, liberté » qui était destiné à François Mitterrand. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de Michel. Il y avait dans notre petit groupe Badinter, Régis Debré, Jean-Denis Bredin, Michel Serre, Jacques Attali. Et on a vraiment sympathisé, travaillé un peu, rigolé beaucoup, parlé rugby, parlé Garonne, enfin tout ce qu'aime Michel. Et puis je l'ai retrouvé ensuite, pas mal d'années plus tard, lorsque j'étais Premier ministre, pour lui demander des conseils sur l'informatique, les nouvelles voies de l'éducation, et puis encore tout récemment, puisqu'il a eu la gentillesse lors de la nuit du droit organisée au Conseil constitutionnel de venir parler de l'environnement. Donc c'est un homme que j'aime et qui est vraiment singulier parce que je ne connais pas d'autres exemples d'un scientifique aussi à l'aise dans la philosophie. De quelqu'un qui mélange avec une telle maestria la Garonne et le rugby. Et sur une question qui m'intéresse beaucoup, qui est celle de l'environnement, je pense qu'il a fait faire un pas à beaucoup de gens lorsqu'il nous a expliqué que le mot même était trompeur, que ce n'était pas l'homme qui était entouré par la nature, mais que l'homme était un élément dans la nature, dans son livre qui s'appelle « Le contrat naturel ». Alors, ça, c'est une description un peu intellectuelle, mais j'aime l'homme parce que j'aime sa faconde, j'aime le fait qu'il soit à la fois très français et citoyen du monde. Et s'il y a des esprits universels, ils doivent ressembler à Michel, que j'embrasse.
Ben voilà, écoutez, vous étiez un bon enseignant, manifestement. Vous l'aviez remarqué, quand même, le jeune Laurent Fabius, quand il passait son examen.
Je ne suis pas responsable de l'intelligence de M. Fabius, bien entendu.
Non, mais vous vous en souveniez de lui avoir fait passer l'examen de philo.
Je me rappelle très bien du candidat qu'il fut. Et je me rappelle un peu, parce que vraiment, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées depuis, de sa planche au moment du concours, qui a été très très bonne, était très douée. Et puis ensuite des diverses rencontres qu'on a eues ensemble et qu'il vient de citer. Voilà. Merci à lui.
Alors, Laurent Fabius rappelait à juste titre que vous avez écrit un livre très important sur le combat pour la reconnaissance de la nature, qui s'appelait Le contrat naturel, référence explicite à Jean-Jacques Rousseau et qui a beaucoup fait évoluer les mentalités. Maintenant, aujourd'hui, on peut dire que les mentalités évoluent positivement et que ce n'était pas mieux avant.
C'était mieux avant, oui.
Donc, ça vous fait plaisir, Michel Serre.
Oui.
Pardon. Non, pardon, je vous écoute. Excusez-moi de vous avoir
coupé. Dire que depuis que j'ai écrit Le contrat naturel, en effet, il y a plusieurs pays qui ont mis dans leur législation des décisions de ce genre. Par exemple, de rendre sujet de droit des biotopes donnés. Alors on peut imaginer par exemple un procès où le parc des Pyrénées attaquerait des utilisateurs abusifs, vous voyez. Donc le parc des Pyrénées serait sujet de droit, voilà. Et ce genre de pensée, qui était tout à fait nouvelle à l'époque, est de plus en plus appliquée dans certains pays. Et je crois que là, la question s'est posée bien entendu au Conseil constitutionnel, et je crois qu'on veut essayer de proposer à l'ONU, une sorte de pacte sur l'environnement. Mais j'aime pas beaucoup le mot environnement, comme l'a dit Laurent. Voilà.
Alors, sur certains thèmes très obsédants de notre monde contemporain, vous avez gagné des combats, vous avez fait avancer des causes, mais vous êtes resté extrêmement lucide sur ce qui peut poser problème. Votre dernier livre n'est pas du tout pessimiste, il est résolument optimiste, comme d'ailleurs la quasi-totalité de vos textes philosophiques, Michel Serres. Mais cependant, vous n'oubliez pas de dire que nous vivons un moment de basculement de société.
Exactement.
Où l'individualité devient prépondérante et brise tout ce qui autrefois faisait cohérence dans la société, c'est-à-dire cette fameuse fraternité. Faut-il la restaurer? Faut-il la réinventer?
Il faut prendre les choses en effet de façon la plus lucide, et vous venez de le faire. En effet, aujourd'hui, l'individu est né. D'ailleurs, il a mis du temps à naître, il a mis 2000 ans, puisque l'individu a été inventé par Saint Paul, par Descartes, par Rousseau, etc., par tous ceux qui ont écrit les confessions, si vous voulez. Mais peu à peu, l'individu a mis du temps à émerger, et maintenant, ça y est, il est né, bon. Du coup, comme l'individu devient autonome et que la législation a toujours cherché à le rendre autonome, il est vrai qu'aujourd'hui, les appartenances sont en train de disparaître. En effet, il y a de moins en moins d'appartenances locales, de moins en moins d'appartenances, etc. Le problème est de réinventer de nouvelles appartenances. Alors ça aussi, c'est une invention. J'ai oublié de vous dire que aussi bien dans ce livre, c'était mieux avant que dans d'autres, je donne à la philosophie une sorte de devoir d'anticipation. Je l'avais fait un peu pour Hermès, pour la société de communication, j'ai fait pour le contrat naturel, etc. Et c'était mieux avant, amorce un peu cette espèce d'anticipation. Et en effet, l'anticipation, en effet, c'est que, étant donné qu'aujourd'hui, certaines appartenances ont disparu, et d'ailleurs souvent à juste titre, hein, c'est que, comment vous dire, l'appartenance était quand même responsable de beaucoup de catastrophes, de guerres, d'oppositions, de racisme, etc. Et que ça se délite un peu, est une bonne nouvelle. C'était pas mieux avant, justement. Et maintenant, c'est vrai, vous avez raison. Il faut inventer de nouvelles appartenances. Et c'est pour ça, sans doute, qu'aujourd'hui, un certain nombre de gens se réfugient dans des appartenances un peu anciennes. On le voit en Espagne, on le voit en Irlande, on le voit en Russie, on le voit en Allemagne, etc. Peut-être aussi un peu en France, etc. Mais c'est pas la question. La question, c'est d'inventer des appartenances qui appartiendraient à ce monde extraordinairement nouveau que nous sommes en train de vivre.
Eh bien, ça sera le prochain livre, Michel Serres, on vous attend.
Vous savez, celui qui inventera une nouvelle politique sera le plus grand philosophe du siècle, et c'est peut-être que ça ne sera peut-être pas moi, parce que je suis trop vieux pour l'inventer.
Mais non, vous êtes un nouveau jeune.
Oui, nouveau jeune. Oui, oui.
D'ailleurs, ce livre est aussi une méditation sur bien vivre, bien vieillir, et, c'est conserver l'espoir que l'âge qu'on vous donne n'est pas celui que vous avez dans la tête.
C'est-à-dire, quand on dit que quelqu'un est optimiste en France, on le traite d'imbécile, vous le savez. Mais je suis cet imbécile-là. Voilà.
Ouais, d'ailleurs, on dit imbécile heureux.
Voilà, imbécile heureux. Absolument.
Merci infiniment pour ce que vous êtes, pour ce que vous écrivez et pour ce que vous faites. Je voudrais dire que c'était mieux avant. C'est un livre qui vient de sortir, un manifeste qui vient de sortir aux éditions Le Pommier, et que je conseille aussi un livre dont nous n'avons pas du tout eu le temps de parler, un très beau livre qui m'a bouleversée, que vous avez écrit avec votre fils Jean-François Serres, Jean-François et Michel Serres, sur la solitude. Merci infiniment, Michel Serres. Et nous allons nous quitter en musique, et nous avons pour vous, choisis une chanson qui signe une génération, ce qui me permettra de vous inviter à danser. Mais attention, le rock. The Who, My Generation. People try to put us to town. Talking about my generation. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. Take my generation, baby. Why don't you all fade away? Talking about my generation. Don't try to dig what we all
say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all say. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. Cause we could get around. My generation, my generation.